Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. Et hein, on refait le mastre spécial monté en Ligue 1, évidemment. Alors, avec moi ce soir, pour faire vivre cette émission, l'homme de la technique, comme toujours, je commence par lui parce que sinon il nous coupe le micro. Verivel, salut Verivel.
Oui, ben salut, super heureux encore une fois d'être ici, spécialement ce soir, et bonsoir à tous. Vous pouvez intervenir, je vous le rappelle, de partout, sur le chat de YouTube, sur le forum, sur Twitter, je vais essayer de tout regarder ce soir.
Bravo, bien joué, Verivel. Par hasard également, salut par hasard.
Salut, on est en Ligue 1, Osvaldo. Oui. Les masques, oui. Tout le monde, on est en Ligue 1. C'est digne d'un but de Berić, mais renouvelé dans une 89e minute, renouvelé à l'infini. Je plane.
Aussi fort que ça, parce que le but de Berić, c'était bon. Hein. Pat également avec nous ce soir.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous. Oui, bah, forcément, je pense que on reviendra sur ce moment incroyable où on était. Au bord de l'apoplexie, on va dire ça, et puis au final, cette grande libération finale.
Ouais, alors le but de Berić, ça me rappelle que Boudbouze avait fait l'amour à Touzard juste avant, ce qui rendait encore le truc meilleur. Et puis, fidèle également de l'émission, Dissident, salut Dissident.
Salut Osvaldo, salut à tous, ben, ravi de vous retrouver, même si je dois avouer que je n'ai pas encore tout à fait réalisé ce qui vient de se passer.
Eh bien, moi non plus, cher ami. Moi non plus, c'est vrai que c'est tellement improbable. On va y revenir hein, sur cette saison excessivement contrastée que par moments, je me dis, je suis pas sûr d'avoir rêvé. Et d'ailleurs, le compte officiel de la SS a posté sur les réseaux sociaux sur ce thème ce matin, là, en mettant « Non, non, ce n'était pas un rêve ». Enfin, oui, hier, pas ce matin. « Non, ce n'était pas un rêve ». On ne doit pas être les seuls à pas entièrement réaliser. Alors, avant de parler de cette saison incroyable que nous avons vécue, avant de parler de la vente, parce qu'on a vécu 48 heures dingues, entre la montée et puis la vente, les premières déclarations de la nouvelle direction. Il y a des choses à dire, des perspectives qui, j'espère, sont intéressantes. On va parler du barrage retour face à Metz. Ce match que moi, je vois après coup comme un symbole de notre saison, en fait, avec un début catastrophique et puis l'espoir qui renaît, puis une explosion finale. Par hasard, on va commencer avec toi. Tu n'es jamais d'accord avec moi habituellement. Tu te fais un devoir de ne pas être d'accord, mais là, tu vas avoir du mal quand même à ne pas être d'accord sur ce point.
Sur le fait que la saison, que le match est très symbolique de ce qu'on a traversé pendant 8-10 mois, c'est ça ?
Ouais, c'est d'ailleurs passage catastrophique, l'espoir renaît et puis apothéose.
Ouais, c'est un match retour bizarre. Autant le match aller, il était accompli. Je pense que notre meilleur match de la saison est dans une continuité pendant quasiment 90 minutes, malgré le but messin. Autant le match retour, c'est parti avec ce carton rouge dont je rêvais. J'avais écrit à des potes que je rêvais d'un scénario de ce style, un carton rouge des Messins dans les 30 premières minutes, parce que je pensais que ça nous faciliterait la tâche. C'est venu, donc j'ai pu faire mon malin, mais pendant 2-3 minutes, pas plus longtemps. Et puis ensuite, l'impression que, bah, en fait, que la douche écossaise à laquelle on a l'impression d'être abonné, arrivait très vite. Et puis ensuite, il y a ce but de Petro et on sent que les choses sont vraiment remises à plat. Et puis plusieurs fois, je me suis dit à 2-1, alors qu'il n'y a plus trop d'occasions ni d'un côté ni de l'autre, mais je me suis quand même dit qu'on avait l'avantage parce que finalement, les deux équipes étaient à 0-0, puisqu'on était à égalité, mais qu'on était à 11 contre 10. Donc j'essayais de me rassurer comme ça. Et progressivement, on a quand même pris le pas, on a quand même pris l'avantage dans le jeu. On sentait que c'était nous qui cherchions à faire la différence, en particulier en prolongation, que ce n'était pas eux. Et malgré tout, ils se sont créés des, des occasions, notamment deux occasions énormes en prolongue. Et en fait, en y repensant à ces occasions, rétrospectivement, j'ai encore peur aujourd'hui, quoi. Je tremble encore en pensant à ce sauvetage miraculeux d'Appia, parce que je pense que la reprise va au fond. J'ai oublié qui c'était, mais je pense qu'il décroise parfaitement sa frappe et que l'arceau est battu. Et puis, il y a aussi, dans la première prolongation, le sauvetage de l'arceau. Donc, énorme, quoi. Avec cette délivrance, avec Wadji, ce truc improbable. Il y en a eu aussi des trucs improbables dans la saison, comme le doublé de Cardona contre Bordeaux. Donc, ça aussi, ce but de Wadji, c'est improbable et c'est un bon résumé de notre saison. Avec cette délivrance, on a été au fond du trou et puis on a fini en extase. C'était jour-nuit toute la saison et ça a fini en jour, en grand jour.
Ouais, c'est vrai que ce but de Wadji, les joueurs lui ont rendu hommage parce qu'il a énormément galéré et c'était plus qu'improbable puisque Olivier Dalloguio a dit qu'il avait quoi, 20 minutes dans les jambes peut-être Wadji, et c'est lui qui marque le but de la montée. C'est absolument incroyable. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir dans quelles conditions on a vécu cette rencontre, parce que c'est parfois un peu folklorique, ce qui était mon cas par exemple. Je vais y revenir, mais d'abord Vérivel.
Oui, non, c'était juste pour réagir à ce que vient de dire par hasard. Appia, dans l'équipe, il a eu 4. Et là, je n'ai pas compris, en fait, parce que.
Bah, ça confirme qu'ils sont complètement à côté de leur pompe
Ah
lorsqu'il
non,
s'agit
mais.
de mettre des notes.
Ah, mais là c'est fou, quoi. Enfin, là, c'est quand même fou, parce que Appia, pour moi, c'est le meilleur sur le terrain, non? C'est pas. C'est dans ce match, quasiment, quoi. Et comment ça se fait qu'il a 4 dans l'équipe? Là, j'avoue que je n'ai pas compris. J'ai acheté l'équipe là le lendemain parce que la une, elle est magnifique. Et puis, les articles sont très bien. Ils racontent toute la saison, etc. Par quoi on est passé, tout ça. Et je suis arrivé sur les notes. Et là, j'ai halluciné, quoi. Parce que franchement, mettre 4 à Apia sur ce coup-là, je n'ai toujours pas compris. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais
Oui,
pas.
c'est étonnant. Donc, une apothéose, mais avant ça, il y a quand même eu un peu de stress, je pense, dissident. Tiens, on va commencer avec toi. Comment tu as vécu cette rencontre dans ton canapé, devant la télé, sereinement comment ça s'est passé?
Ouais, un peu de stress, t'es gentil, quoi. Moi, je finis la saison sur les rotules, comme les joueurs, hein. C'était aussi bien mentalement que physiquement. Je pense que là, on est tous allés un peu au bout de nos limites mentales. Par hasard, a bien résumé l'ensemble des émotions par lesquelles on est passé dans ce match. Il y a vraiment eu effectivement un moment où je me suis dit que ça allait tourner du mauvais côté, parce que bien qu'on avait le ballon, bien qu'on se créait pas de si grosses occasions que ça dans la prolongation, alors que Metz, au contraire, à chaque fois qu'il piquait en contre, il faisait mal. Je voyais arriver la séance des tirs au but avec beaucoup de perplexité également, parce que on avait quand même fait sortir à peu près tous nos tireurs de pénalty habituels, Sissoko, Cafaro, et Tardieu. Donc voilà, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce match-là, en fait, de reprendre chaque émotion qu'on a eue au moment du carton rouge, au moment du pénalty obtenu par Miko Tadze, au moment du but refusé à Masson, qui est une aberration arbitrale incroyable. Imagine si on avait raté la montée à cause de ce but refusé, ça aurait été terrible. Et puis finalement, la délivrance incroyable à 3 minutes de la fin avec Wadji, cette histoire incroyable de Wadji qui rentre avec 10 minutes dans les jambes et qui nous envoie en Ligue 1 en marquant son seul but de la saison. Voilà, moi j'en tremble encore en fait en y repensant, et j'arrive, j'ai toujours du mal en fait à réaliser que ce match on l'a gagné. Enfin, en tout cas, on l'a pas perdu. Donc, on a réussi à arracher la montée à Metz.
Ouais, ne l'ayant pas perdu, on l'a gagné. Effectivement, ton lapsus est tout à fait révélateur. Petit message de service, Vérivel, baisse la main, s'il te plaît. Les conditions dans lesquelles on l'a vécu, cette rencontre, chacun lutte contre le stress à sa manière. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai fait ça. Par hasard, d'abord, tu voulais dire un mot?
Je voulais juste réagir par rapport au but de Wadji, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin le but, si, je suppose que vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu et revu, mais sur le but, sur l'action du but, on arrive quand même à marquer ce but qui est à tous égards exceptionnel. C'est-à-dire que c'est dans un match ultra importantissime, à un moment ultra importantissime, avec un joueur dont la présence était improbable. Et sur le but, l'avant-dernier passeur fait un petit pont, en l'occurrence Appia. La passe d'Appia pour Mboukou, c'est un petit pont. Et le but d'Ouadji, c'est un petit pont aussi sur le défenseur. Donc en fait, sur deux des trois derniers joueurs qui touchent le ballon, dont le buteur, ont glissé la balle entre les jambes de deux défenseurs messins. Et
Et
je trouve ça surréaliste.
avant ça, il y a beaucoup qui se bat sur le côté et qui contre, qui dévie un ballon relancé par les Messins et ce ballon arrive sur Appia. Et beaucoup qui se retrouvent à quatre pattes enchaînent tout de suite avec une vraie volonté. Il a affiché une vraie volonté d'aller vers l'avant et de faire la diff. Et il a ensuite fait l'appel qui amène le centre en retrait. Message de service par hasard, baisse la main. Alors, ouais, je vais donner la parole à Pat après pour qu'il nous dise comment il a vécu un peu cette rencontre. Moi, voilà, en ce qui me concerne, le stress était tellement fort que j'ai décidé de regarder le match en courant sur un tapis de course en fait pour essayer d'évacuer un peu le stress maximum et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne manière puisque on s'est retrouvé mené 2-0 directement donc j'ai dit il faut changer quelque chose et je suis descendu du tapis pour aller courir à l'extérieur c'est-à-dire ne pas regarder le match. Voilà. Et donc j'ai changé de chaussures. Et puis au moment où j'ouvre la porte pour aller courir, boum, Léo Pétro réduit la marque. Et là donc dilemme, est-ce qu'il faut que je reste et est-ce qu'il faut que je parte? Et ma fille m'a dit non non non, là tu peux pas rester, là faut que tu t'en ailles. Et donc je suis allé courir et je suis revenu au moment de la prolongation. Autrement dit, c'est un match que je n'ai vu que très partiellement et que j'ai revu après évidemment. Mais je courais coupé du monde en me demandant bien comment les choses avaient pu évoluer. Voilà en ce qui me concerne cette rencontre qui a été trop difficile à suivre normalement. Enfin, je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque. Pat, parle-nous un petit peu de ton match, de comment tu l'as vécu, de ce que tu as ressenti et tout ça.
Oui, alors pour moi, ce qui est important, c'est peut-être de revenir peut-être sur la globalité de ce barrage, parce qu'on n'en parle pas trop, mais il y a eu un match aller aussi qui était très très accompli. Mais le sentiment général, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que ça a été quand même un moment de tension comme j'en avais rarement vécu en supportant ce club, alors qu'on en a vécu quand même des moments forts. Hein. J'ai eu ce barrage il y a 2 ans, ok. Il y a eu surtout cette finale de Coupe de la Ligue qui, pour moi, était la première finale que je vivais. Donc, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Il y a eu d'autres montées précédentes, mais avec moins de stress sur la montée en tant que telle. C'était plutôt pour la lutte pour le titre, etc. Il y a eu des derbies, des choses. Mais là, enfin, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai vécu ces 4 jours, on peut pas dire ouais, de mercredi ou jeudi jusqu'à dimanche, avec énormément de tension finalement, et comme si on jouait notre vie vraiment sur ce match, au terme d'une saison qui a été harassante, qui a été éprouvante, qui a été super difficile, moralement, mentalement, pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, mais surtout pour nous, supporters. Et ben, étrangement, c'est peut-être les 2 matchs que j'ai le moins vus de la saison au final, puisque bon, pour des circonstances, on va dire familiales et personnelles, bah, du coup, le match de jeudi, je l'ai vécu dans une salle de concert, donc du coup, j'ai pas vu le match du tout. Je l'ai suivi en essayant, tant bien que mal, en essayant d'actualiser mon live de l'équipe, et donc j'ai hurlé ma joie sur le deuxième but marqué par Cardona. Je pense que tous mes voisins à côté ont exalté en même temps que moi, parce que la plupart étaient dans le même état d'esprit que moi, en train de suivre le match en même temps que le concert. Et le match de dimanche, j'étais dans la bagnole, donc en train de redescendre de Paname. Et donc, pendant tout le temps réglementaire, j'ai pas vu du tout le match. Je le suivais du coup à la radio locale, hein, sur la radio France Bleu. Et donc forcément avec les commentaires très partisans, très chauvins, etc. Et j'en pouvais plus, quoi. Dans la voiture, c'était juste insupportable. Je pense que ma femme m'en voudra tout le reste de notre vie commune. Mais ça a été un moment super, super compliqué, hein, parce que forcément, on démarre le match. Moi, j'étais tendu comme pas possible. Donc, à gripper mes mains sur le volant, à tapoter partout, etc., tout en conduisant. Donc, forcément, pas super. Donc, après, ce match démarre et là, on passe de l'attente à l'abattement après ce début de match complètement loupé de nos joueurs. Là, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible. On retrouve les mecs qui malheureusement, n'arrivaient pas à se surpasser, qui rataient leur début de match et qui rataient aussi leur fin de match au début de saison, etc. Et je me disais, mais voilà, j'étais presque en train de me dire, putain, c'est fini, mes semaines 2-0, ils ont beau être à 10, on n'y arrive pas, ils sont en train de nous manger complètement. Et puis finalement, voilà, Léo Pétro qui remet en gros l'équipe sur les bons rails, qui nous permet de revenir à égalité. Et là, je me remets à y croire, forcément. Après, il y a ce but. Alors que le but de Masson, que nous, dans la bagnole, on célèbre, je vous laisse m'imaginer de quelle manière. Hein. On a hurlé comme pas possible. Moi, je tapais sur le volant et tout. C'était franchement génial, quoi. Quand l'arbitre refuse le but au bout de 5 minutes quasiment, alors là, c'était la grosse déprime encore à nouveau. Et après, le stress, jusqu'au moment où on arrive enfin chez nous et où là, je peux regarder la prolongation à la télé. Et là, changement de stress parce que je me mets vraiment devant la télé. Je m'isole dans un coin pour arrêter d'embêter ma famille. Et jusqu'au moment où voilà, il y a ces deux actions sauvées par l'Arseneur. La première par l'Arseneur, la deuxième par Appia. Et ensuite, ce but de la délivrance qui arrive finalement, qui était tellement mérité par rapport à la débauche d'énergie des joueurs et la possession qu'on avait, les occasions, certes pas très importantes, mais le nombre surtout d'occasions qu'on a, qui était quand même assez, assez conséquent. Et finalement, cette exultation où j'ai réveillé tout l'immeuble du coup sur ce but, et après où j'ai les après-matchs restent des après-matchs, mais bon, j'ai pété une bouteille de champagne, etc. Voilà, enfin, on a fait une grosse bringue pour célébrer ça, parce que c'était tellement improbable qu'au final, plus belle était la joie et la victoire à la fin.
Ouais, en apothéose, il a terminé ce match. Alors, il y a un petit message de Patavo, fidèle auditeur sur X, ex-Twitter, là, qui dit, alors je ne sais pas dans quelles circonstances exactes, que lui, il a vécu la qualif en direct du Cochonou Stadium. Donc, c'est un plaisir particulier. Assez sympa.
C'était Taylor Swift dimanche au Cochonou Stadium.
Oui, d'accord, c'est une chanteuse, c'est ça?
Arrête, quand même, Taylor Swift, c'est
l'artiste. Non, mais j'ai déjà entendu le nom, mais je ne sais pas qui c'est. Je suppose que
c'est une chanteuse. C'est la chanteuse la plus connue du monde, qui était au Cochonou Stadium. Donc,
la chanteuse la plus connue du monde?
Ah oui, Taylor Swift, ouais, largement.
Bon, ça m'étonnerait qu'elle soit aussi connue que Nena et son fabuleux 99 Luftballon. Bon, bref.
Je valide la référence.
Pardon ?
Oui.
Je valide la référence.
Ah, c'est bien. Merci par hasard. Oui, donc cette rencontre qui nous a fait vibrer, qui nous a fait stresser, qui a amené à la fin un plaisir dingue, on ne risque pas de l'oublier. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé sur la fin de saison, mais surtout sur ce match, c'est un groupe vraiment solidaire, dissident. On a vu les joueurs, y compris au moment de la prolongation, des joueurs qui auraient pu être déçus, exemple Anthony Briançon, mais pas le seul. On a vu des joueurs remplacés qui, sur le banc, étaient aussi impliqués que quand ils étaient sur le terrain. J'ai senti beaucoup, beaucoup de cohésion et de solidarité dans ce groupe. Je voudrais savoir si tu as ressenti la même chose.
Oui, absolument. Absolument. Et tu fais bien de souligner que c'est aussi venu de joueurs qui jouaient pas forcément sur les derniers matchs comme Briançon, qui paraissait vraiment très en mission également, comme
Étienne Green aussi,
Étienne Green
Étienne
qui
qui a
fêtait
été
ça.
critiqué, qui a quasiment pas joué, et j'ai toujours eu le sentiment qu'il avait un état d'esprit absolument parfait, que ce soit
Ouais.
à l'échauffement avec Gauthier Larsonneur ou que ce soit avec ses coéquipiers depuis le banc de touche.
Ouais, après, bah, t'avais tous les formés à Saint-Étienne, donc c'était normal qu'ils avaient des émotions comme Étienne Green, mais moi je retiens par exemple les larmes de Monconduit qui a vécu une saison très très bizarre en fait. On a un peu laissé de côté sous Batless, de retour avec Daloglio, mais sur les derniers matchs, il lui a préféré Tardieu parce qu'il était de retour de blessure, etc. Et quand même, Monconduit, c'est quelqu'un qui a sa carrière, hein, qui a connu pas mal de clubs, pas mal de réussites, d'autres montées, me semble-t-il. Il était monté avec Amiens. Et là, tu sentais que c'était un gamin qui montait pour la première fois, qui était à l'apogée de sa carrière. Et moi, en fait, celui qui m'a le plus marqué, finalement, on n'en a pas trop parlé, mais Poto Carré a fait un bon potin là-dessus, c'est la déclaration de Denis Sapia, qui est interrogé juste à la fin du match. Il est encore sur le terrain. Et en fait, on lui demande à quoi il pense. Et lui, il répond, bah, en fait, voilà, moi, je pense qu'il y a 1 an et demi, quand je suis arrivé, il y avait tous les gens de mon entourage qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans cette galère à Saint-Étienne? Ils sont 20e de Ligue 2, t'es pas mieux à Nantes avec ton contrat en Ligue 1. Et il explique que lui, ben voilà, il a fait le bon choix parce qu'il est venu exactement pour ça, qu'il est déterminé à y arriver et qu'aujourd'hui, ben, il était ravi, quoi. Donc effectivement, il y a cette agrégation de caractères, de gens qui étaient à des niveaux de carrière différents, qui avaient pas mal bourlingué, d'autres formés au club, des jeunes, des anciens. Et ça a fonctionné comme par magie sur la fin pour au forceps. Je pense qu'il y a eu l'état d'âme supplémentaire pour arracher ce barrage, qu'il y avait, à mon avis, beaucoup moins du côté de Metz.
Oui, je crois effectivement que côté Messin, il n'y avait pas ce supplément d'âme dont tu parles. Et c'est vrai que Thomas Monconduit, j'ai été frappé aussi, puisque il était vraiment ému aux larmes, Thomas Monconduit. D'ailleurs, il n'a pas été capable de répondre à Margot Dumont qui souhaitait l'interviewer. Et c'est un garçon qui a non seulement sa carrière pour lui, mais aussi du caractère. Hein, on le voit bien, on le sent. Et là, il a été très, très touché par cet instant. Et je dois dire qu'en tant que supporter, ça fait plaisir de voir des joueurs qui ne sont pas juste là pour prendre le chèque. Vérivel, tu voulais intervenir?
Oui, pour vous raconter ce qui se passe sur le chat là de YouTube, il y a Thierry qui nous dit que lui, il a vécu ce match retour tout seul chez lui et qu'il a pété une chaise sur le but refusé. Donc, ben, paix à son âme à la chaise. Hein,
Bah oui, il paie à son âme la chaise et tu as bien eu raison, Thierry, de passer tes nerfs sur la chaise puisque c'est quand même un scandale arbitral absolument phénoménal.
il vaut mieux s'en prendre à la chaise qu'au chien, par exemple. Un peu plus, enfin, c'est mieux. Et il dit que par
Mais il
contre, à
vaut
la
mieux
fin
s'en
du match,
prendre à Tolisso qu'à la chaise. Bon,
ah
si
oui,
on
ça
fait
par
un
contre.
ordre.
Et il dit qu'à la fin du match, par contre, les larmes ont coulé. Et contrairement à 2 ans en arrière, où en fait, là, il avait une vraie rage intérieure, il y a Forésien qui nous demande est-ce qu'on peut vraiment faire pire en stress que ce barrage? Parce que c'était vraiment terrible. Les playoffs, les 3 derniers matchs, etc., c'était complètement dingue. Et Thierry, il rajoute aussi qu'apparemment, on a joué avec un paquet de joueurs diminués, voire blessés, hein, notamment Mouéfec, Cardona, Cafaro, Larsonneur, et que bah, du coup, on est passé quand même et que c'est vraiment chouette. Et Titi Greenfan, lui, c'est sur le forum, il nous dit que même après le but de Wadji, il avait encore la trouille. Et que Tardieu, lui, il tournait le dos au terrain sur le dernier coup franc. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de stress et on était tous complètement traumatisés par ce qu'on avait vécu avant, mais que c'était vraiment chouette. Et puis,
Oui,
si vous voulez. Ouais, vas-y.
Oui, je disais traumatisé par ce qu'on a vécu avant, et je rejoins Titi, que je salue, historique de Potocarré, lui aussi. Eh bien, la première chose que j'ai dite, c'est « c'est pas terminé ». Et c'est vrai qu'on voyait les remplaçants qui envahissaient le terrain, on voyait cette joie incroyable, mon conduit qui était déjà quasiment en larmes, et je les haranguais en leur disant « ce n'est pas terminé », comme s'ils pouvaient m'entendre, évidemment, ils ne m'entendaient pas, mais ça, dans ces moments-là, ça fait du bien d'extérioriser tout ça. Et c'est vrai que je n'étais pas non plus… encore totalement convaincu qu'on n'allait pas avoir un dernier retournement de situation.
Ouais, les fantômes de Bâle, là, étaient en train de repointer leur nez. Moi, c'est à ça que j'ai pensé dès le but de Wadji. Moi, si je peux vous raconter un petit peu comment j'ai vécu le match. En fait, j'ai fait un espèce de déni, quelque chose, et j'étais persuadé. Alors, je n'étais pas chez moi, j'étais à l'étranger, et j'étais persuadé que le match était à 20h30. Donc, j'avais calé le départ de chez mes amis là, d'Espagne pour être chez moi à 20h30. Et donc, j'ai roulé. J'ai fait que rouler. Et je ne me suis pas du tout préoccupé du match jusqu'à un moment où je me suis arrêté pour pisser. J'étais dans une station-service et en fait, à côté de moi, il y avait un gars, donc dans la pissotière, là, il y avait un gars qui avait son téléphone à la main et qui regardait le match. Et donc, j'ai entendu que c'était le match de synthé. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, je suis retourné à ma voiture en quatrième vitesse et c'était la 105e minute, je crois, quelque chose comme ça, juste un tout petit peu avant que Wadji y marque. Donc, j'ai mis le match et du coup, je suis reparti en voiture, un peu comme Pat, du coup. Il y a eu le but. Et là, alors évidemment, j'ai hurlé, j'étais sur la route, quoi. J'ai hurlé comme un malade. Et après, j'ai dit, mais stop, je peux pas conduire et avoir ce stress-là qui revienne, quoi, après. Donc, j'ai tout éteint après et j'ai continué à rouler. Et c'est ma femme qui regardait sur l'équipe qui m'a dit qu'on était passé, quoi. Et donc, j'ai absolument pas vécu ce match. Je l'ai regardé après. Mais je ne l'ai absolument pas vécu. J'ai juste vu le but de Wadji, en fait, en gros. C'est tout ce que j'ai vu du match en direct, en tous les cas. Voilà. Voilà,
après le déni de grossesse, le déni de barrage, Verivel, c'est absolument énorme. Un excellent moyen de lutter contre le stress, c'est se mentir à soi-même et arriver à la fin du match. Dissident.
Oui, donc c'était juste une petite remarque. En fait, on est en train de parler d'un match que personne n'a vu, quoi. Bah, heureusement que par hasard et moi, on était quand même devant l'écran parce que
personne n'a vu en direct, cher ami. Évidemment que oui. On l'a revu après. Et puis moi, j'ai quand même eu le plaisir de voir les deux buts messins. L'égalisation la réduction du score de Petro, de Léo Petro, juste avant de sortir, et puis j'étais revenu pour le but de Wadji. Donc en fait, j'ai vu les quatre buts quand même en direct. Pat.
Oui, alors après, je vais pas dire que je l'ai pas vu, parce que bon, j'ai fait quelque chose qui est totalement interdit. J'avais le téléphone quand même de brancher sur en dessous de quelque part sur les genoux, pas loin, bon, pendant la route. Mais bon, comme j'avais 2 minutes de retard, c'était surtout pour voir les actions. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même vu certaines choses dont on reparlera peut-être plus tard. Ouais, c'était tout.
Oui. Alors. Donc, avant de ces petites anecdotes, c'est vrai qu'on parlait de la solidarité affichée dans ce groupe. Et puis, il n'y a pas que la solidarité qui compte en foot, il y a aussi quand même l'aspect tactique et être capable de profiter de la supériorité numérique. Par hasard, là, en l'occurrence, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a bien fait sur les conseils d'Olivier Dalloglio. D'ailleurs, ce n'est pas du tout révolutionnaire, hein, mais on a étiré le bloc messin dans le sens de la largeur. On a essayé de passer sur les côtés et c'est comme ça qu'on marque d'ailleurs en fin de rencontre.
Oui, c'est effectivement le point sur lequel les commentateurs ont… et notamment Margot Dumont, qui était en bord de touche, ont insisté. en disant que c'était une consigne que Daloglio répétait à l'envi. Effectivement, ça s'est terminé par une action initiée sur le côté droit. Ensuite, tactiquement, certes, ça a été. Enfin, je trouve que c'est compliqué d'analyser tactiquement ce match parce que il y a beaucoup de choses qui rendent déjà l'enjeu a rendu à un moment donné le match un peu fou et surtout les rebondissements, l'effet de jeu avec notamment le carton rouge ont rendu ce match compliqué. Ce que ça a aussi démontré, même si je sais encore une fois pas quelle est la valeur d'une analyse tactique sur un match pareil, quoi, vu la tension, vu tout ce qu'il y a. Vu l'idée aussi que c'est un match aller-retour, donc c'est pas un match classique, mais ce qui est à noter, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où on a peut-être eu l'envie de gérer et quelque chose qu'on sait pas faire, et on s'est pris dans cette envie de gérer qui se traduit souvent chez nous par un manque d'agressivité. En fait, c'est ça je trouve qu'on ne sait pas faire, quoi. Et ben, on s'est retrouvé à être emporté par la vague pendant 20-25 minutes. Je ne sais pas comment l'analyser autrement que par le fait que tactiquement, je ne sais même pas si c'est une demande d'Alogio, parce que en tout cas, c'est pas ce qu'il avait dit, mais il se trouve que les joueurs mettent un petit peu moins d'engagement, et je pense que c'est inconsciemment, ils traduisent le fait de dire le fait d'être conscient qu'ils sont devant et donc qu'il ne faut pas absolument mettre tout de suite du rythme dans la partie. Et ben, il y a pas Geoffroy Guichard derrière.
Alors, je sais pas, moi j'ai perdu par hasard.
Ah, ouais, on a
Ouais, je crois qu'on l'a tous perdu.
Ah, d'accord, parce que je ne savais pas si c'était moi qui étais déconnecté, donc par hasard finira
Mais
son propos.
il est revenu, non?
Ah, il est revenu.
Ouais, bah ouais.
D'accord.
Ouais,
Bah, vas-y,
vous
termine ton
m'entendez ou
propos
pas?
tout de suite.
Bah alors, du coup,
Verivel,
je disais juste
Verivel,
que. Là...
avant que par hasard termine, message de service à nouveau.
Oui, d'accord.
Ouais, techniquement. Donc, j'en étais à dire qu'après après ces 30 premières minutes foireuses, ou peut-être qu'on avait trop eu le souci de gérer, ce qu'on ne sait pas bien faire, on a progressivement mis un peu la main sur la partie. Et on s'est mis à dominer aussi parce que Metz, ça c'est naturel, il revient au galop, c'est ce qu'ils ont fait toute la saison. Et en plus, ils étaient un de moins, ils commençaient sans doute à être fatigués. Donc voilà, les conditions font que l'analyse tactique avec l'idée d'écarter, certes, c'est comme ça qu'on a marqué, mais il y a tellement de choses qui ont bouleversé le cours un peu normal de ce match que je trouve que l'analyse est compliquée. Mais ce qui ressort globalement de la saison de Daloglio, c'est que c'est pas un entraîneur, c'est pas comme Antonetti avec qui on était remonté 20 ans auparavant et qui était très solide, très Daloglio, c'est quand même un entraîneur qui fait plutôt jouer ses équipes et qui, je trouve, est plus à l'aise, même si on a moins marqué qu'avec Batless, je trouve qu'il est plus à l'aise dans le fait de prendre le jeu à son compte que dans le fait de cadenasser.
Oui, ça c'est. Je pense que c'est assez juste. Alors, tu parlais du début de rencontre. Moi, ce qui était frappant dans ce début de rencontre, c'était le fait qu'on perdait tous les duels, quoi. Hein, à l'impact, on avait le frein à main. Je ne sais pas bien pourquoi. Alors, tactiquement, il y a quand même un point que je voudrais aborder, un point qui fait plaisir. Verivel, on nous avait vendu le roi Georges, Mikotadze, aussi con que brillant, on l'a dit, mais qui n'a pas été aussi brillant que con. Merci pour nous. À part simuler et obtenir un penalty sur les deux rencontres, il n'a rien fait et je pense qu'il faut mettre ça au crédit en particulier de Michael Nadé et Dylan Batoubitsika.
Oui, alors il n'a rien fait. Bon, il a quand même une grosse occasion là à la fin. Il tape sur le poteau aussi à un moment. On sent quand même que c'est plutôt un bon joueur et puis on le sait. Alors après, effectivement, je pense que la charnière là, qui a été alignée pour le barrage a toute son importance dans la victoire, justement dans le fait de bien. Contenir Mikotadze. Je pense que le penalty, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a absolument pas péno. Moi, pour moi, il le touche pas. Et d'ailleurs, ça se voit à l'image. Il tombe tout seul. Mais je ne sais pas pourquoi, du coup, dans le camion et l'arbitre, enfin l'arbitre à la limite qui siffle, peut-être qu'il ne le voit pas, mais je n'ai pas compris la VAR sur ce coup-là, parce qu'on voit quand même clairement sur les images qu'il ne le touche pas. Donc voilà, mais effectivement, la charnière, et puis je dirais aussi ben, le rôle d'Appia, là, qui a été prépondérant, à la fois au niveau offensif que défensif. Donc là, on a eu quand même une très belle. Là, on a fini en tous les cas la saison avec une très belle défense. Petro, Batoubensika, Nadé et Appia, c'est quand même du niveau Ligue 2,5, quoi. Hein, Ligue 1,5, je veux dire, pardon. Ligue 1,5, peut-être, je
Ouais,
ne sais pas.
c'est mieux comme ça pour eux, hein.
Oui. Ligue 1,5, puisque voilà, je ne sais pas si ça tiendrait toute une saison en Ligue 1. En tous les cas, là, pour la Ligue 2, c'est quand même très, très, très costaud. Et voilà, donc super. Et puis, bah, Daloglio, il a quand même eu le cran de faire son changement, de remettre Batoubensika sur les derniers matchs décisifs. Et bah, ça a marché, donc bravo.
Alors, Pat, moi, je voulais t'interroger sur un cas très particulier qu'on a effleuré, mais je voudrais qu'on y revienne un petit peu. C'est Wadji. Alors, honnêtement, moi, Wadji, avec son enchaînement de blessures, j'y croyais pas. Bon, je me suis dit, c'est un mec qui va passer son temps à l'infirmerie, comme on en a déjà connu. Je ne comptais absolument pas sur lui pour la fin de saison. Je me suis dit, de toute façon, s'il rentre 3 minutes après, il va ressortir blessé. Donc, en fait, on ne le reverra pas. Et au bout du compte, c'est improbable joker qui nous fait finir cette rencontre en apothéose. Est-ce que tu es aussi surpris que moi que ce soit ce garçon qui finalement fasse la différence?
Bah, c'est un beau symbole. C'est un beau symbole qui résume aussi, comme le match, qui résume très bien ce qu'on a vécu toute la saison. Wadji, on attendait énormément de lui depuis le début de la reprise. Tout simplement parce qu'on avait perdu notre goléador Crasso la saison d'avant. On n'avait plus notre pourvoyeur de but, Nkunku. Donc on se disait, mais il reste qui devant pour marquer des buts? Surtout que le recrutement à l'intersaison avait quand même été moche, c'était Wadji. Il se trouve qu'il se blesse au bout de 2 matchs. On va pas rappeler les circonstances, mais du coup, quand on se rend compte qu'au final, il n'y a même pas eu de sanction sur le tacle qu'il a subi, et qu'au final, on l'a perdu quasiment bah, les 8 mois qu'on suivit. Il y a eu quelques reprises. Voilà, on l'a perdu toute la saison. Et c'est sûr que c'est la belle histoire. On le sentait presque venir quand même malgré tout, parce que Odo le laissait quand même un peu sous-entendre qu'il espérait quand même le voir revenir pendant les barrages, voire peut-être un tout petit peu avant, mais encore, il disait ouais, bah, peut-être pourquoi pas. Et au final, bon, c'est la belle histoire. C'est sûr que c'est chouette, c'est super pour lui. Ça va lui redonner du moral, je pense, pour la suite, en espérant que maintenant les pépins soient vraiment derrière lui. Il va avoir 2 mois pour se remettre bien comme il faut avant la reprise. Ça va être très très bien. Maintenant, moi, ce que j'aimerais quand même souligner, autre que le but de Wadji, parce que bon, je pense pas que c'était le plus difficile de sa carrière qu'il ait eu à mettre. C'est le travail qu'a fait Mboukou sur sa rentrée, qui a totalement redynamisé notre attaque, qui s'est procuré une action que le gardien sort de justesse quelque temps avant, qui s'est arraché sur tous les ballons, qui là, quand il s'est pris un tampon justement sur cette action, bah, au lieu de crier, de demander un coup franc, bah, il se relève aussitôt et il essaye d'aller se replacer devant, chose qu'aurait pas fait peut-être 10% peut-être tout la moitié ou alors 3/4 des autres joueurs, et qui vient à la fin, comme au match aller, faire une passe décisive presque à l'arrache pour qu'on marque et qu'on gagne, quoi. Oui, Wadji, c'est la belle histoire, mais n'oublions pas tout ce qui a été fait à côté par les autres partenaires, et surtout Mboukou sur cette action et Appia juste avant.
Oui, beaucoup, très bonne entrée, qui a un peu dynamité la défense messine. C'était tout à fait positif comme impact sur la rencontre. Alors, on a parlé des joueurs qui étaient émus, qui semblaient attachés au club. Dissident, on a quand même un certain nombre de joueurs qui revendiquent vouloir continuer l'aventure avec les Verts. C'est d'ailleurs le cas d'Olivoglio aussi. Ça, c'est quand même, je trouve, un indice très positif par rapport à ce qui se passe en interne au club. Et je voudrais insister sur… Tu as parlé de Thomas Monconduit. J'ai été étonné comme toi du fait qu'il soit à ce point ému. Et il y en a un autre qui m'a beaucoup étonné, c'est Mathieu Cafaro, que par moment, on pouvait trouver… un peu détaché et qui en fait était hyper ému aussi et qui disait que en gros c'est pour lui c'était le plus beau moment de sa carrière, c'était très spécial parce que son père était un fan des Verts et ça m'a vraiment étonné de le voir ému comme ça en fin de rencontre. Donc pour en revenir à ma question et à ce constat pour savoir si tu le partages, des joueurs qui revendiquent vouloir prolonger, c'est quand même, me semble-t-il, un indice assez encourageant par rapport à ce qui se passe en interne au club.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis c'est toutes ces déclarations et toutes ce ressenti, ces sentiments qu'on a partagé avec eux là dans les longues minutes retransmises à la télé dans les vestiaires, ça nous rappelle quand même encore une fois à quel point notre club est différent. Et l'importance de ce club aux yeux de tous, des passionnés de foot, quoi. Nous, évidemment, on est supporters de la SSE depuis qu'on est petit, on baigne dedans et on sait qu'on est différent. Mais quand tu vois effectivement des joueurs qui viennent de tous horizons et qui comme ça, qui sont à ce point-là d'émotion, à ce point-là d'affirmer qu'ils vivent qu'une montée en Ligue 1 avec le maillot vert, c'est le plus beau moment de leur carrière. Et eh ben c'est hyper touchant et ça doit nous. Tu fais la transition avec la nouvelle équipe qui arrive, mais moi je dirais simplement que depuis 2013, on va dire, on est rentré dans un cycle où on nous expliquait petit à petit, on est rentré dans un cycle un peu de loose. Où on nous a expliqué que Saint-Étienne, c'était déjà super qu'on gagne une Coupe de la Ligue, et qu'on ne pouvait pas garder nos meilleurs joueurs, et qu'il fallait qu'on vende nos jeunes pour récupérer des joueurs qui étaient forcément un peu moins bons, et puis que Saint-Étienne, vous comprenez, avec le bassin économique, et ben c'est pas possible de lutter avec d'autres agglomérations en France. Et on est tous rentrés petit à petit dans ce cycle-là, dans cette idée-là, au point que finalement, descendre, oui, c'est la suite logique des choses. Et puis que, et ce que je veux dire, c'est que d'un coup, là, il y a un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est que tout d'un coup, il y a une nouvelle équipe qui vient de loin et qui a dit, non, Saint-Étienne, c'est pas un club de bas niveau de Ligue 1 ou de Ligue 2. En France, c'est un club qui a beaucoup de potentiel. C'est un club qui doit être parmi les grands du foot. C'est un club qui attire encore. On voit les joueurs qu'on a pu faire venir, à quel point ils sont attachés à ça. C'est une ville qui respire le foot. C'est une ville qui mérite beaucoup mieux que ce qu'elle a eu ces dernières années. Et moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, en fait, finalement, en voyant la déclaration à la fin du match, ça m'a vraiment donné cette piqûre de rappel et de me dire que on mérite mieux, que la montée en Ligue 1, c'est simplement réparer une anomalie, et que maintenant, on va pouvoir avoir des jours meilleurs, je l'espère. Je suis désolé, je t'ai peut-être un peu spoilé la deuxième partie, mais en tout cas, voilà. Moi,
Non, pas du tout.
Ouais, c'est
ce
ça.
Que j'allais dire, c'est que l'anomalie, elle sera réparée quand on jouera les premiers rôles en Ligue 1, à vrai dire. Et ça va plutôt être la troisième partie. On va en parler avec les premières déclarations de la nouvelle direction. Et le fait qu'on soit un club à part, pour moi, c'est du domaine de l'évidence. Il suffit d'aller dans les autres stades pour s'en rendre compte. Et puis, il suffit de regarder nos parkages qui sont merveilleux. et on en a déjà parlé ensemble, dissident, vivre un match dans un parcage, c'est une des plus belles expériences qu'on puisse vivre en tant que supporter stéphanois. Et puis, il suffit d'aller à Geoffroy Guichard. Enfin bon, quand tu vis, par exemple, le match contre Bordeaux, le dernier match que j'ai vécu à Geoffroy dans le Cop Nord, c'est le match contre Bordeaux. Bon, bah, c'est quelque chose d'exceptionnel au sens propre du terme. Verivel, tu voulais dire un mot?
Oui, je voulais d'abord dire que vivre le match dans une pissotière d'une aire d'autoroute, c'était pas mal non plus. Ça, je tenais à le dire. Et ensuite, je voulais vous parler du chat YouTube. Où en fait, bah, Titi Green Fan, là, qui nous a rejoint sur le chat YouTube, du coup, nous dit que en fait, Margot Dumont, elle a expliqué, alors ça, je n'avais pas entendu, qu'il y a un joueur qui lui a dit au début de match qu'il sentait le rouge d'entrée pour un Messin et qu'il allait falloir faire attention après aux fautes et qu'elle n'avait pas donné le nom du joueur, mais on pensait que c'était Appia et que et finalement, c'est sur lui, c'est bien sur lui qui a eu le rouge. Ensuite, on parle évidemment de Wadji avec sa saison ahurissante qui pouvait finir que comme ça. D'ailleurs, il me semble quand même qu'il y a eu plusieurs prédictions sur le forum avant le match, comme quoi, et même il y a ces derniers mois, comme quoi c'était Wadji qui allait nous donner le but de la victoire. Et ça s'est réalisé. Thierry qui nous dit que Wadji, c'est un conte de fées et qu'il se cachait presque en fin de match et que c'est Briançon qui est allé le chercher pour pouvoir avoir l'interview là sur Bein. Donc vraiment des moments hyper forts. Moi, je voudrais rajouter que par rapport à ce qu'on vient juste de dire, que Soukas, dans une interview là, après le match, lui-même, il a dit quelque chose qui, moi, me parle quand même, vu comment j'avais vécu le barrage d'il y a 2 ans, c'est-à-dire très très mal. Soukas, il a dit, on va pouvoir cicatriser. Et je pense que c'est un peu de cet ordre-là, cette montée, c'est-à-dire de la cicatrisation, un petit peu d'effacer notamment cet horrible barrage d'il y a 2 ans. Voilà.
Oui, c'est vrai. Je trouve que la formule est assez bonne. Et en tous les cas, je suis prêt à la reprendre à mon compte. Ça correspond un peu à ça. Même si je vais redire ce que j'ai dit, parce que ça correspond aussi à ce que disait Dissident quand il parlait du fait que c'était normal, que c'était notre place de revenir en Ligue 1. Moi, je pense que notre place, c'est jouer les premiers rôles, notre vraie place. Et j'espère que c'est ce que va nous permettre de faire à moyen terme la nouvelle direction. Alors, par hasard, je viens vers toi maintenant parce que bah, tu fais partie de ceux qui ont la mémoire la plus impressionnante sur l'histoire des Verts. On a souvent des échanges sur les vieux épisodes qu'on se souvient les uns et les autres et tu ne manques jamais de rectifier les erreurs lorsqu'il y en a. Dans le conducteur de l'émission, j'ai mis que c'était la saison la plus improbable du club. Est-ce que tu rejoins ce constat avec cette saison très contrastée qui finalement monte, se termine par une montée? Je suis un peu perturbé parce que à nouveau, Verivel, faudrait qu'on sache si tu vois. Voilà, merci.
Oui, je suis désolé, mais c'est l'émotion.
Oui, mais il va falloir qu'à un moment que ça monte au cerveau, cher ami, par hasard.
Je suis pas sûr que ça arrive.
Oui, mais c'est normal, on est tous exténués après toutes ces émotions. Je partage en partie l'idée que cette saison est un peu irréelle ou surréaliste et que son scénario est totalement improbable. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai étudié à un moment donné, j'ai failli potiner là-dessus, d'ailleurs, pour Poto Carré, et puis je l'ai pas fait, mais potiner un peu sur l'évolution du niveau et du nombre de points des Verts en découpant, en fait, les 38 matchs à peu près en 4. On a un peu une fausse idée, mais qui est pas mal véhiculée par les médias, une fausse idée qu'à un moment donné, on avait peur pour notre maintien en Ligue 2. Aux alentours de décembre. J'ai regardé en préparant l'émission, en fait, à la 19e journée, on était 7e du championnat, Alors certes, on était loin des deux premières places, mais on n'était qu'à 6 points à ce moment-là du troisième. Alors ensuite, on sait au max, on a été à 9 points du troisième, mais il restait 18-19 journées. Donc on n'a jamais été totalement largué. Et en fait, quand on regarde en première partie de championnat, on marque 28 points. En deuxième partie, on en marque 37. Donc il n'y a pas absolument un contraste. De mon point de vue, en tout cas, si on prend froidement les chiffres, il n'y a pas un contraste si marqué que ça entre deux parties de saison. Et moi, par ailleurs, mon sentiment, et le sentiment qui m'a toujours habité en voyant les Verts cette saison, c'est que tout était fait à l'arrache. Et en fait, quand on a été mauvais, quand on a perdu, c'est qu'il y avait plus, il manquait de supplément d'âme ou il manquait de physique ou les deux en même temps. Et quand on a gagné, c'était pas forcément brillant, mais c'était parce qu'on avait supplément d'âme, comme contre Bordeaux, à deux, trois exceptions près. Je trouve qu'on n'a jamais vu un match où on a dominé de la tête et des épaules en se disant on a fait une prestation accomplie. Il y en a deux, trois où on l'a fait, on a notamment contre Angers à l'aller comme au retour, un petit peu contre Auxerre aussi, mais finalement, je pense pas qu'on trouve. On réfléchira une demi-heure tous les cinq, on ne trouvera pas cinq matchs accomplis, si j'enlève les barrages, on va dire, mais même les barrages, il n'y en a eu qu'un de match accompli, on ne trouvera pas cinq matchs accomplis dans cette saison. Donc je suis pas. Alors, ce qui est formidable, c'est en fait le côté espoir, supplice, colère, puis délivrance, ce côté. On ne sait pas si on doit espérer ou se désespérer. C'est vrai qu'il nous a habité toute la saison, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas eu, de mon point de vue, une révolution ou un bouleversement entre la première partie de saison et la deuxième, ou entre le milieu de la saison et puis la fin.
Ouais, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu le sais, mais par contre là où je te rejoins tout à fait, et je trouve que tu as trouvé la bonne formule, on n'a jamais su si on pouvait espérer ou si on devait désespérer. C'est exactement ça. C'était l'ascenseur, les montagnes russes émotionnelles en permanence. Par contre, là où je te rejoins pas, alors je vais peut-être trouver un allié du côté de Pat, c'est sur les différences dans les prestations. Alors certes, on n'a jamais été exceptionnel. Pour les matchs aboutis, moi je vais quand même en rajouter un. C'est le match aller contre Metz, où on doit gagner plus que ça. On est contre une Ligue 1 quand même et on les domine très largement. Et si on prend un but, c'est sur une glissade de l'Arseneur. C'est même pas des Messins qui nous mettent hors de position. Donc peut-être qu'on n'a jamais été exceptionnel. Par contre, on a été mauvais à un point. En tous les cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu avec des joueurs. Que j'ai parfois qualifié à qui j'ai attribué des qualificatifs peu agréables, parce que c'était pour moi insupportable de les voir pas seulement aussi mauvais, mais aussi mous, ne montrant aucune envie. C'est comme ça que je le vivais. Pat, entre cette période qui, par exemple, celle qui a mené à la destitution de Batless avec 6 défaites consécutives en comptant la Coupe de France, ce qui a été proposé sur la dernière partie de saison, moi je trouve qu'il y a un gouffre abyssal. Par hasard, n'est pas tout à fait d'accord. Comment toi avec un petit peu de recul, comment toi tu vois les choses?
Moi, je serais plutôt dans ta tendance. C'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé quand même depuis la reprise, et notamment dans cette fameuse série de 5 défaites, mais pas que. Moi, j'ai quand même en tête aussi des matchs en début de saison, mais qui étaient calamiteux, hein. La victoire 2-1 contre Quilly, c'était vraiment catastrophique. On marque sur deux pénaltys, on n'a aucune action dans le match. Le match suivant contre Valenciennes, c'est pareil, on fait 0-0 et on n'a aucune action.
Contre Quevilly, notre victoire, on n'a pas, c'est pas une équipe de Ligue 2, hein. Enfin, je veux
Ah
dire, on n'a pas
non,
le niveau Ligue 2.
non.
C'est une victoire, mais on n'a pas le niveau de Ligue 2 sur ce match-là.
Non, non, pas du tout. Enfin, il y a ça, et puis après, on enchaîne certes une bonne série derrière, mais pareil, là, je rejoins par hasard, c'était quand même beaucoup à l'arrache les victoires qu'on pouvait avoir. Il y a eu ce match contre Angers qui a laissé croire à un moment, ça y est, qu'on était sorti du marasme. Mais on y est vite retombé. Hein. Enfin, on a tous en tête ce match contre le PFC, quelques jours justement après sa victoire contre Angers, où on pouvait prendre cette première place et se dire, ça y est, c'est bon, on est lancé, on va aller en Ligue 1. Et derrière, c'était l'effondrement. Et là, je ne sais pas après derrière si c'est dans l'engagement, enfin, il y avait vraiment un déficit dans l'engagement, mais à quoi c'était dû? Il peut y avoir plein de raisons, le problème physique, notamment avec cette préparation dont on a déjà parlé maintes fois dans cette émission, qui a été complètement ratée pendant l'été, peut-être la pression du public, peut-être, mais ce qui était totalement dingue. Et quand on voit la deuxième partie de saison, on se dit que c'était certainement pas ça. Il y avait un problème mental dans cette équipe, alors qui était peut-être au final inculqué par le coach Batless avant, peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes mots, peut-être qu'a su trouver Odo depuis. En tout cas, oui, pour moi, j'ai vu vraiment une vraie différence entre l'avant Batless, l'avant Odo et quand Odo était là. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Hein. On se rappelle quand même que le premier match à Bordeaux, bah, ça a été quand même à l'arrache, à l'énergie. L'équipe restait derrière et s'est contentée de défendre pour pas prendre de but, pour se remettre en confiance. Il y a eu ensuite, je perds un peu le fil sur ça, mais il y a eu le match nul après contre Laval qui a été quand même bien bien laborieux. Il y a eu cette défaite ensuite à Dunkerque qui l'a vraiment. Et là, vraiment, on a senti que l'équipe, à partir de là, avait changé. Maintenant, est-ce que finalement, il y avait un tel écart que ça? Il y était. Il était pas aussi astronomique que ce qu'on a pu dire à chaud, parce qu'on était tellement, je pense, habitué à voir des purges en permanence pendant toute cette première partie de saison, qu'on a trouvé que finalement, bah, le match contre Bastia, c'était un match où l'équipe elle avait joué avant de se liquéfier à nouveau. Il y a eu ce match contre Troyes, où là vraiment on a senti que l'équipe, voilà, c'était peut-être libérée enfin, et l'enchaînement des matchs derrière. Mais oui, effectivement, il y avait toujours ce sentiment quand même que c'était souvent à l'arrache, souvent à l'énergie, mais il y avait quand même pour moi une vraie évolution.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais su, je reprends cette formule qui me plaît beaucoup, s'il fallait espérer ou désespérer. D'ailleurs, on a eu des échanges avec Par Hasard et Vérivel. Vérivel qui disait, mais vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas y croire maintenant. Et je lui disais non. Mais il l'a dit, je ne sais pas, 4 ou 5 fois de suite, que ce soit en fin de saison, où moi j'y croyais pas alors que. Il nous restait 2 ou 3 matchs, enfin qu'on a gaspillé 2 ou 3 balles de match. Je ne le sentais pas. Et puis, effectivement, ça a été un nouvel ascenseur émotionnel, ou que ça soit à l'issue des barrages. Alors, il faut qu'on se garde un petit peu de temps pour parler de la nouvelle direction. Je voudrais juste dire juste terminer avec Dissidence sur la saison et un petit mot sur les recrues. Loïc Perrin, alias Dieu, a été très vite critiqué. Moi, je pensais qu'il bénéficierait d'un peu plus de temps, mais en tous les cas, pas par tout le monde. Mais il y a un certain nombre de supporters qui l'ont très vite critiqué en disant qu'il n'était pas à sa place, en gros, manquant de caractère, trop gentil, et que c'était pas l'homme de la situation. Mais au bout du compte, c'est avec les joueurs qu'il a recrutés et certains qui ont fait des vraies différences qu'on est monté. Alors, je te donne la parole dans une seconde, dissident, sur ce thème-là. Juste un petit message de Patavo sur Twitter qui rappelle qu'il y a aussi eu des décisions arbitrales qui ont influencé la saison, à commencer par le premier match où effectivement il faut rappeler qu'on perd à domicile contre Grenoble sur une erreur d'arbitrage. Alors Verival, peut-être avant de donner la parole à Dissident sur le travail de Loïc et en particulier les recrues.
Ouais, c'est pour parler du chat là, et où il y a Stéphane qui nous dit que quoi qu'on dise, alors ça on va peut-être y aborder ça maintenant, mais quoi qu'on dise, il sera quand même impératif hein, de se renforcer pour prétendre à se maintenir en Ligue 1.
Oui, alors ça, on va en parler, je le dis à Stéphane, c'est dans la troisième partie, puisqu'il y a déjà eu des déclarations très claires en ce sens.
Ouais, c'est ça. Et puis Thierry qui rappelle à par hasard qu'on a quand même perdu 11 matchs dans la saison. Donc voilà. Titi Greenfan qui nous Titi Greenfan pardon qui nous dit qu'il faut voir qu'avant l'arrivée de Cardona et de Mboukou, on n'avait que deux attaquants valides. Hein. C'était Cafaro et Sissoko qui n'étaient pas remplaçables. Et en face, ils savaient très bien comment les gérer. Et on était du coup inoffensif à cause de ça. Forésien qui renchérit, qui dit que le mercato hivernal a rééquilibré un peu l'effectif avec Mboukou, Cardona et Masson. Voilà. Voilà. Donc écoutez, il y a même Eric là qui vient d'intervenir. Alors Eric Veuillet, là, c'est la première fois, je crois, qu'il intervient sur le chat YouTube. Alors, il nous pose une question sur Gazidis, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, en nous demandant comment le club a-t-il réussi à faire venir Gazidis. Alors voilà, je vous pose la question pour lui, peut-être que vous avez la
Ouais,
réponse.
on va en parler parce que Bernard Cahiazot s'est un peu exprimé sur le sujet. Alors, dissident, tout le monde veut parler à ta place, mon pauvre malheureux, mais tu vas enfin pouvoir nous dire. D'ailleurs, ça a été évoqué sur le chat YouTube. Trois noms ont été évoqués, trois noms qui ont changé quand même un peu la face de l'équipe avec l'arrivée d'Aloglio. Et c'est difficile de ne pas mettre ça au crédit de Loïc Perrin.
Ah, c'est impossible de ne pas mettre ça au crédit de Loïc Perrin, mais c'est aussi difficile du coup de ne pas lui reprocher quelque part le mercato d'été. Si on peut pas, ça peut pas être toujours du bon côté. Loïc Perrin, si on prend un peu de recul, c'est très difficile de le critiquer, évidemment, sur la carrière qu'il a eue, sur ce qu'il représente au sein du club. C'est un atout important pour le club et j'espère que l'histoire entre les Verts et Loïc Perrin va se poursuivre de longues années. Je pense que les critiques qu'il a pu subir, ce sont surtout des critiques de ras-le-bol de ceux qui ont mis Loïc Perrin en place. Il a payé un petit peu ça et je pense qu'il est resté vraiment très droit dans ses principes. Et c'est tout à son honneur d'être passé au-dessus de ça, mais je pense qu'il a un peu servi de paratonnerre. Je pense que si j'étais un président hyper critiqué et hyper mal aimé et pas très à l'aise par rapport aux supporters, bah, j'irais chercher quelqu'un comme Loïc Perrin pour essayer de redorer un peu mon blason. Et c'est peut-être un peu l'image que Loïc a eue. Donc effectivement, ne pas oublier quand même dans son bilan peut-être négatif la façon dont il s'est battu peut-être trop pour garder Laurent Batless. Alors que clairement il y a un moment où on a tous senti que ça allait plus et que Batless était en train un peu de perdre l'équipe, perdre le groupe. Là, on a peut-être un petit peu traîné pour faire évoluer les choses. C'est compliqué de critiquer Loïc Perrin. J'ai un peu du mal à le faire, mais en tout
Non,
cas,
non,
ça.
mais l'idée, ce n'est pas de le critiquer pour le principe, mais tout ce que tu dis est juste. Moi, ce que je voulais dire par rapport au fait que ça a un peu traîné pour remplacer Lolo Batless, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait eu une très, très belle série avant. Donc, on remplace Laurent Batless après quoi? Après deux défaites? Après trois? Après quatre? Enfin, c'est difficile quand il y a eu 10 matchs sans défaite auparavant, je dis de mémoire, avec… Je crois que c'était 8 victoires sur les 10 matchs. Enfin, c'était vraiment une belle série. Verivel, je perds patience. Message de service. Par hasard, tu voulais intervenir.
Ouais, je voulais juste parler dans le bilan de Perrin, juste faire une petite parenthèse sur le mercato d'été. Parce que je trouve que c'est une légende urbaine de dire que notre mercato d'été était raté. Alors, je vais sans doute en oublier des joueurs, vous allez me dire que j'en ai peut-être oublié, mais j'ai quatre joueurs en tête qui sont arrivés cet été. C'est Sissoko, Tardieu, Batu Binsika et Diarra. Honnêtement, il y a quand même trois réussites et un échec.
Un échec total parce qu'il n'était pas au niveau. C'est pas parce qu'il s'est blessé, hein. Enfin, j'ai rarement vu un joueur aussi peu au niveau.
Diarra, bah si, parce que t'as vu Pintor quand même l'an dernier.
Pour moi, c'est vraiment du même niveau. Ça m'a rappelé ça.
Ah
Mais
ouais? Ah,
c'est
moi,
triste. Tu dis pas
je te
ça
trouve un
pour
peu
casser
dur.
le joueur, mais.
Et je te trouve dur, mais bon, peu importe, ça fait 3 sur 4 quand même, 3 réussites sur 4.
Ouais, peut-être
Alors
c'était un
peut-être
peu
que
mieux que
j'oublie les
Pintor.
joueurs,
Peut-être un peu
mais
mieux que Pintor.
ah, il me semble, oui. Mais 3 réussites sur 4, c'est difficile de dire que le mercato est raté. Alors on peut dire que on n'a pas remplacé Crasso ou qu'il y a peut-être des manques, mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour dire que son mercato était raté. Le mercato d'hiver précédent était aussi une réussite. Donc sur ces 2 années, enfin à un moment donné, il faut quand même, et y compris pour Soucas, se dire de façon assez simple et objective que on connaît tous le contexte stéphanois, c'est quasiment impossible de remonter avec le traumatisme d'une descente, vu l'importance du foot dans cette ville, c'est impossible de remonter dans la foulée. Ils s'étaient donné l'ambition de remonter en 2 ans, et ben ils y sont arrivés. Et si on regarde mercato par mercato, plus précisément pour Perrin, ben je trouve que le bilan, il est globalement positif sur les 2 saisons.
Ouais,
Voilà.
c'est pas si mal effectivement. Je vais te donner la parole, Pat. Juste une parenthèse avant qu'on attaque la dernière partie. Pour ceux qui nous écoutent, là, je voulais vous dire que sur Bein One, en ce moment, il y a la rediffusion d'un match pas désagréable à regarder. Hop, on attaque la 34e minute. Nous sommes menés 2 à 0 à Saint-Symphorien, mais il faut garder espoir. Pat, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais réagir à ce que vous venez de dire par hasard. Oui, certes, dans les noms qui ont été évoqués, si on regarde sur la globalité de la saison, il y a eu des réussites. Mais moi, le sentiment que j'ai quand même sur les 2 mercatos estivaux qui ont été faits, c'est que à chaque fois, ils ont été rattrapés, pour être gentils, voire même carrément sauvés, pour être, à mon avis, plus près de la vérité, par les 2 mercatos hivernaux. Hein. Donc, le mercato d'hiver de la saison dernière, on se rappelle tous qui est arrivé, alors qu'on était 20e et au fond du trou. Et cette année, ben, mine de rien, ceux qui nous permettent de remonter la pente, c'est quand même dans les arrivées, c'est Cardona, c'est Mbeuku, un degré moindre quand même. Et j'en oublie un, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour moi, ce qui m'a manqué peut-être dans le rôle de Loïc Perrin sur les 2 mercatos estivaux, c'est peut-être en fait c'est les défauts de ses qualités. Je pense qu'il a pas réussi peut-être à insister auprès de sa direction pour pouvoir faire des recrutements qu'il espérait faire, qu'il aurait espéré faire. Je pense qu'un Cardona, effectivement, ça aurait été bien qu'il arrive tout de suite, qu'il arrive dès le mercato estival,
Mais là, pour le coup,
surtout quand on en avait
Pat,
parlé.
non, mais Pat, pour le coup, Cardona, il est arrivé parce qu'il jouait pas du tout à Augsbourg.
Absolument, on est d'accord.
Et beaucoup pareil. Et ce sont des garçons que tu pouvais pas faire pour le mercato d'été, hein, ça c'est sûr.
On est d'accord. Maintenant, il faut se rappeler aussi le contexte de l'été dernier. Donc, Batles veut repartir, il veut mettre en place son système de jeu. Et on fait quand même tout pour ne pas recruter les joueurs dont Laurent Batles a besoin pour que son système fonctionne. On a quand même démarré la saison sans les latéraux, qui étaient pourtant indispensables en tant que pistons dans notre système tel que Laurent Batles le voyait. C'était quand même impensable de se dire on démarre avec Léo Pétraud et Denis Appiah pour jouer sur les ailes, quoi, en tant que pistons. C'était totalement incohérent. Si, ça y est, le troisième est revenu, évidemment, c'est Masson. Et Masson, on sait tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je pense que, certes, le recrutement, il faut le mettre au crédit de Loïc Perrin. Et effectivement, il y a plein de choses qui ont été réussies. Maintenant, je pense que si l'équipe a chaoté autant la saison dernière que cette saison, sur la première partie de saison, c'est peut-être aussi parce que au mercato d'été, on n'a pas eu assez de poigne de sa part pour indiquer à ses dirigeants qu'il était important de lâcher les biffons. Alors après, oui, on en revient encore à ce sujet-là. Maintenant, les dirigeants n'ont pas voulu donner d'argent non plus. Donc forcément, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Mais en tout cas, les dirigeants, effectivement, auraient dû eux aussi mettre la main au portefeuille un peu plus pour essayer de faire une équipe plus compétitive dès le départ. Mais voilà, j'attendais
Ouais.
un peu plus de lui quand même sur ces mercatos d'été.
Ce que, enfin, là où je te rejoins, c'est qu'il y a eu un déficit au niveau des pistons, puisqu'on a perdu Nilsson Nkunku, et que c'était un peu compliqué de pouvoir le remplacer dans le couloir gauche avec, on le sait, Laurent Batless, qui était très attaché à son système. Alors, on en reste là parce qu'on a déjà dépassé l'horaire prévu, mais il faut quand même qu'on parle, malgré tout, on va essayer de ne pas trop traîner, mais il faut qu'on parle de la nouvelle direction. Par hasard, je reviens vers toi. Il y a, enfin, on a tous l'impression, d'une certaine manière, d'avoir gagné au loto, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression de Bernard Caillazot, d'avoir trouvé l'oiseau rare, un repreneur avec qui semble sérieux, avec des garanties financières, avec une expérience dans le football. Et pourquoi je viens vers toi? Parce que Bernard Caillazot dit on a été beaucoup critiqué, on a dit qu'on ne voulait pas vendre, mais c'est juste qu'on a refusé les offres exotiques et qu'on attendait justement l'oiseau rare. Nous, on avait plutôt tendance à penser qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, les deux, Roland Romeillet et Bernard Caillazot, qu'il y avait Anguille Souroche. Et au bout du compte, ils vendent à des personnes qui, enfin, je ne sais pas si on sera d'accord, mais quasiment avec un profil qu'on n'espérait plus. Alors, est-ce qu'il faut croire Bernard Caillazot? Si je viens vers toi, c'est parce que tu n'as pas forcément tendance à croire tout ce que dit l'ancien président.
J'ai même forcément tendance à ne jamais le croire. Donc, Caillazot, pour moi, c'est quand même un vendeur de cravates, donc j'imagine pas une seconde que sa version de l'histoire soit la réalité. J'imagine pas une seconde qu'il soit allé par hasard, ce mauvais jeu de mots, au Québec, à Toronto, rencontrer Tannenbaum et lui présenter un club que Tannenbaum ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et en arrivant à le convaincre que c'était l'opportunité du siècle d'investir dans Saint-Té. Moi, je n'y crois pas une seconde. D'une part, parce que ça fait, et je suis gentil en disant ça, 4 ans au moins que Caillazot montre tout son désintérêt pour le club, pour la vie du club au quotidien. Donc, son côté, on a attendu pour trouver vraiment les bons investisseurs pour assurer à la fois la pérennité et puis l'ambition de Saint-Té, j'y crois pas. Ce côté un peu, je pense à Saint-Té et je suis altruiste, j'y crois pas une seconde. Il a jamais su démontrer un talent en 20 ans de ce niveau-là, c'est-à-dire un talent de j'arrive à bien m'infiltrer dans la ligue pour qu'on soit influent, pour qu'on soit avantagé, je sais pas, par les arbitres ou par des décisions un peu dans les instances. Il l'a jamais vraiment fait. En revanche, si on analyse froidement la situation, il y a deux choses que moi je veux dire. C'est que l'anomalie, c'est qu'on n'ait jamais eu jusqu'à présent un investisseur sérieux qui s'intéresse à Saint-Té, parce que je le dis depuis, encore plus depuis qu'on est en Ligue 2, il n'y a pas meilleur à faire potentiellement, je pense, en Europe aujourd'hui, que Saint-Té, au sens où ça coûte pas cher, et n'importe qui a un petit peu d'oseille et qui est pas trop, qui a les idées à peu près bien placées, et qui sait un peu réfléchir, va multiplier la valeur de ce club par 3, 5 ou 10. Donc, d'une part, on corrige juste une anomalie en ayant un investisseur de qualité qui vient nous racheter. Et d'autre part, compte tenu du CV de Gazidis, moi, je suis convaincu que Gazidis étant lié à Tannenbaum depuis un certain temps, les deux, quand ils se parlent en disant tiens, quand Tannenbaum dit à Gazidis, je sais pas comment ça s'est passé, mais tiens, j'irai bien voir si je peux investir dans un sport comme le football en Europe pour sortir un peu de mes investissements nord-américains. Bah, Gazidis qui traîne dans le football européen depuis 15-20 ans, on peut imaginer quand même, et c'est un peu ce qu'il a dit vu son âge, on peut le croire que Saint-Étienne y connaît. Il voit que Saint-Étienne est en Ligue 2. C'est à la fois un mec qui connaît bien le foot et qui sait gérer, donc c'est un homme d'affaires aussi. Et je pense que la réflexion toute bête, qui est très simple, que je fais de dire que c'est une opportunité, y compris commerciale, Saint-Té, bah, il se l'est faite aussi. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ils ont pris contact avec Bozo. Comme Bozo doit parler mieux l'anglais que Romeillet, c'est sans doute plus lui qui leur a parlé que Romeillet. Mais le rôle Je suis convaincu que le rôle de Bozo, je suis désolé de continuer à l'appeler Bozo jusqu'à la fin, mais il se limite à ça pour moi.
Je dirais que c'est déjà pas mal s'il les a pas fait fuir et qu'il a été capable de poursuivre les négociations.
C'est
Alors
vrai.
lui, il a dit que il était il avait rejoint Tannenbaum à Toronto, qu'ils avaient vu un match de NBA ensemble, ensuite qu'ils étaient allés passer une journée dans sa propriété de Miami et qu'il s'était rendu compte que c'était quelqu'un de très sérieux et que là, il y avait un repreneur qui correspondait à ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Voilà, c'est la version de
Mais ça, c'est
Bernard
pas
Cahiaz.
forcément faux. Hein. Je dis
Non, non.
juste que c'est peut-être Tannenbaum qui, à un moment donné, a souhaité rencontrer les dirigeants de synthé.
Je
Et
pense que c'est dans ce sens-là que ça s'est fait, oui.
voilà. Et Caiazzo, a priori, prend plus facilement l'avion que Roro, qui prend plus facilement son vélo.
Ouais.
Et
Et
pour
qui se
Miami, c'est
casse
compliqué.
régulièrement la clavicule, ce qui ne l'empêche pas de continuer à rouler. Verivel, tu voulais intervenir?
Oui, alors d'abord, je vais baisser la main comme ça. Je me ferai pas engueuler cette fois. Et oui, alors il y a énormément de réactions là sur le chat YouTube. Alors notamment au niveau de ce qu'on parlait tout à l'heure des mercato. Philippe qui nous dit qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Au niveau du mercato d'été, il a fallu débourser au mercato d'hiver du coup. Et sur la question de la vente là qu'on vient d'aborder, il y a Stéphane notamment qui nous rappelle que autant on a entendu Caiazzo, autant pour l'instant, ben Roland Romeillet, on ne l'a pas du tout entendu depuis dimanche. Et il se demande même s'il n'était pas, lui, par contre, réticent pour vendre aux Canadiens. Moi, je ne pense
Non,
pas, mais.
a priori, Roland Romeillet, la seule chose qu'il a demandé de ce qui a fuité dans la presse, c'était de rester président d'ASSE Cœur Vert. Voilà, il veut toujours avoir un pied dans le club. Ce qu'on comprend, hein, parce que lui, on sait que malgré ses défauts, il est
Comatose.
attaché au club. Et,
Oui, je suis
mais
comatose.
je ne pense pas du tout qu'il était opposé à la vente.
Ouais, voilà. Et ensuite, bah, dernière chose, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit, puisque Vali est sur le chat, hein, donc attention à ce que vous racontez, les gars.
Très bien, petit coucou à la blonde qui a vécu elle aussi une belle soirée, une vraie amoureuse des Verts. Alors, par hasard, nous a donné son sentiment un petit peu. Ce que j'étais en train de dire, c'était que, au moins, même s'il n'a pas initié les contacts avec Tannenbaum, Bernard Caiazzo, il n'a pas fait péricliter les choses. Alors, il y a eu des. On connaît, on ne va pas revenir sur, je l'ai dit, l'expérience de ce duo-là qui est très, très porteuse d'espoir parce que Tannenbaum, dans la gestion de clubs professionnels en Amérique du Nord, parce que Gazidis à Arsenal et à Milan, où tout le monde vante son bilan, tout ça c'est très intéressant. Puis il y a les premières déclarations. Alors je sais pas si vous avez vu ça, dissident. Je sais pas si tu as vu ça, Gazidis, sa première prise de parole. Il parlait de l'ASS, de son histoire. Il voyait l'ASS comme l'un des plus grands clubs du monde. Alors je sais pas s'il le pense, mais ça fait plaisir à entendre, non?
Ouais, en tout cas au niveau communication, je pense que là, on va falloir qu'on se mouille un peu la nuque parce que ça risque de nous faire tout bizarre là dans les semaines et mois qui viennent. On est passé sur
Ah
un
bah,
niveau assez.
c'est sûr que ça va changer de l'enregistrement du Skype de
Voilà.
Mouammar Kadhafi avec les journalistes égyptiens.
Voilà. Mais. Mais au-delà de ça, bon, même si ça reste de la com, mais ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure au sujet des joueurs, de la façon dont ils voyaient le club. C'est-à-dire que il faut qu'on soit confiant dans le fait que l'AS Saint-Étienne, c'est un club très important sur le plan européen.
Oui, mais tu as raison, dissident, parce que moi, quand j'ai entendu la déclaration, alors je vais parler après de ce qu'il a ajouté ensuite aujourd'hui, parce que ça, c'était hier. Je me suis dit, mais bon, il exagère un peu, plus grand club du monde. Enfin, un des plus grands clubs du monde. Puis après, je me suis dit, mais si on considère que la France est un pays important de football, l'un des plus importants, c'est pas absurde dans le football moderne, compte tenu des résultats de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Mais il y a combien de clubs en France qui peuvent s'asseoir à notre table?
Ouais, mais c'est ça.
Voilà, je te rends la parole, dissident, mais sérieusement.
Non, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un club qui compte. Et c'est un club qui est au-delà des problématiques de bassin économique ou de côté sexy de la ville dont on nous rabâche les oreilles pour nous expliquer que les investisseurs ils vont plutôt aller à Nice ou je sais pas où. Non, non. Saint-Étienne, c'est une ville de foot. L'AS Saint-Étienne, c'est un club à part. Et évidemment, je comprends tout à fait la démarche d'investisseurs voilà, au niveau mondial qui veulent investir dans un club. Comme l'a très bien expliqué par hasard, on était vraiment une des meilleures affaires sur le marché là, sur ces derniers temps. Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça ne s'est pas fait plus vite. Je pense que dans mon idée, il y a un des deux présidents qui a fait traîner la vente le plus possible. En attendant de récupérer les parts de Carvalho pour faire une culbute plus importante. Je ne suis pas sûr effectivement que les investisseurs qui s'étaient présentés au portail avant étaient plus sérieux que celui-là. On ne le saura jamais, mais peut-être que ça fait très longtemps que Gazidis surveille notre club, je ne sais pas. Mais en tout cas, au-delà de la bonne surprise et du fait qu'effectivement, on va pouvoir rêver maintenant les yeux grands ouverts et que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça, il y a un certain rationnel, il y a une certaine logique derrière cet investissement.
Ah bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu dis par hasard. C'est-à-dire que oui, c'est rationnel pour ces gens-là qui sont très compétents d'investir à l'ASS. Il n'y a même rien de plus rationnel parce que franchement, j'ai du mal à imaginer qu'en Europe, il y ait un club plus attractif que les Verts aujourd'hui. Voilà, avec un potentiel de développement énormissime et une mise de départ qui est très faible par rapport au potentiel. Parce que si même un club de championship en Angleterre ou quoi, ça coûterait beaucoup plus cher avec des perspectives qui seraient totalement différentes. Alors, il y a eu cette première déclaration, puis ensuite, Evan Gazidis, je pense qu'il a aussi fait preuve d'un peu de réalisme. Il a dit on va être ambitieux, on ne va pas seulement vouloir se maintenir en Ligue 1, on va essayer de jouer aussi, ramener les Verts sur la scène européenne. Mais étape par étape, chaque chose en son temps, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour nous vendre du rêve, enfin, en tous les cas, pas pour nous prendre pour des idiots, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui connaît le football. Et puis, il y a l'aspect sportif, réunion avec Olivier Dalloglio jeudi prochain, et il a déjà été annoncé, que ce soit par Gazidis qui a dit qu'il y aurait des renforts, que c'était nécessaire, mais Olivier Dalloglio qui s'est exprimé clairement, Pat, et qui a dit qu'on allait s'appuyer sur certains joueurs et que d'autres partiraient. Donc il l'a déjà annoncé. Il y a beaucoup de joueurs qui ont annoncé qu'ils souhaitaient rester, mais tout le monde ne restera pas. C'est quasiment toujours le cas lors d'une montée. C'est parfois un crève-cœur, mais c'est en tout état de cause un mal nécessaire. Ce que dit Olivier Dalloglio, c'est si on joue avec le même effectif en Ligue 1, une équipe de Ligue 2 qui monte et qui ne se renforce pas, elle redescend.
Oui, c'est évident. C'est si on se rappelle un peu nos montées précédentes, c'est effectivement ce qui s'était déjà passé aussi. En tout cas, les deux que j'ai vécu précédemment, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. La saison, quand on est remonté avec Nouzaret, on fait quand même des recrues qui nous permettent ensuite de jouer les premiers. Enfin, en tout cas, de bien jouer en Ligue 1, en D1, à cette époque-là, la première saison, c'était très bonne. Il y avait notamment nos deux Brésiliens, il y avait Pedron, il y avait Gouel, il y avait de... Voilà, donc quand on est remonté ensuite, En 2004, bon, on a eu d'autres recrues. Hein. On a vu sur le forum passer pas mal de messages en ce sens qui les énuméraient. Donc forcément, si on veut se maintenir en Ligue 1, il faudra impérativement recruter des joueurs qui nous permettent de se maintenir en Ligue 1. Notre équipe, elle a certes fait preuve de valeur morale quand même assez, très intéressante cette saison, et notamment sur cette deuxième partie de saison. Néanmoins, on a tous vu pendant de nombreux matchs les lacunes techniques qu'elle a pu afficher, et c'est de façon une évidence que il nous faudra du monde devant pour créer du jeu. Il faudra un autre attaquant que Sissoko, je pense, devant, parce que Sissoko, malgré toute sa bonne volonté, ben, techniquement, ça pêche devant le but. Il se place pas toujours très bien. Parfois, il rate aussi des actions faciles. Donc voilà, donc on aura besoin de monde devant, on aura besoin de monde aussi au milieu pour créer du jeu. On aura besoin aussi de latéraux qui soient beaucoup plus performants tant défensivement qu'offensivement, parce qu'en face, on n'aura pas les équipes qu'on a affrontées cette saison. Le gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il ne fait que s'accroître depuis des années, notamment de par cet écart monumental avec les droits TV. Ça ne va pas s'arranger, surtout qu'en plus, maintenant, la Ligue 1, c'est restreinte à 18 clubs. Il y aura forcément un tout autre niveau à l'étage au-dessus, et il faudra impérativement recruter. Et c'est moi en ce sens. Alors, j'ai beaucoup apprécié les discours que j'ai pu entendre de Monsieur Gazidis, tant la vidéo qu'il a diffusée aujourd'hui que les interviews qu'il a pu faire ces deux derniers jours. Maintenant, encore une fois, j'attends de voir. Moi, j'ai toujours un peu de mal à m'enflammer tout de suite pour un changement qui était souhaité, que je souhaitais ardemment, et dont je suis très heureux qu'il arrive. Maintenant, voilà, on va juger aussi sur pièce. Quels seront les moyens qui seront donnés à l'entraîneur? Donc, on suppose que ce sera Odo, mais ça reste encore à être confirmé. Et quels joueurs vont donc arriver pendant cette... Quand est-ce qu'ils vont arriver, surtout? Parce qu'il est temps, cette fois, qu'ils arrivent dès le début de la préparation, hein, et qu'on fasse une vraie préparation estivale avec les joueurs déjà présents, qu'on n'attende pas le 31 août comme chaque saison pour recruter nos dernières recrues, et faire en sorte que cette équipe elle soit compétitive pour effectivement d'abord assurer son maintien et pourquoi pas faire mieux ensuite.
Oui, on espère bien faire mieux ensuite. Alors, on arrive au terme de l'émission. Je voudrais quand même aborder un dernier point dans les déclarations de Gazidis avec toi par hasard. Moi, j'ai le sentiment qu'il a pleinement conscience, d'ici d'en parler, qu'on est un club à part, qui veut développer une vraie ambition, mais en conservant les valeurs stéphanoises historiques, il l'a dit textuellement. Et l'une des choses sur laquelle il a insisté, c'est le centre de formation qu'il a appelé Académie, comme disent les anglophones. Il dit qu'il est déjà performant, le centre de formation. Alors, il ne peut pas dire le contraire, parce qu'il ne s'agit pas de dézinguer les gens en place, évidemment, mais il veut le développer et il veut attirer les meilleurs joueurs français, que les meilleurs jeunes aient envie de venir à Saint-Étienne. Alors, il faut se souvenir quand même qu'on a été dominateur en Europe avec des joueurs formés au club. C'est quelque chose qui est important historiquement à la SS. Et moi, je trouve qu'au-delà de leur expérience et de leur du sérieux de ce duo dont on a déjà parlé, ce discours, avec une connaissance quand même du contexte stéphanois manifestement, hein, c'est quelque chose de très encourageant. S'appuyer sur le centre de formation, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous.
Oui, c'est encourageant. Ensuite, de mon point de vue, c'est un exercice dans lequel ils ont été bons, cet exercice de com, enfin dans lequel il a été bon, parce qu'il est le seul à s'être exprimé. Mais j'ai envie de dire, j'en attendais pas moins, parce que je trouve que c'est pas... Heureusement, quand tu investis quand même dans un club, heureusement que tu t'es un petit peu renseigné sur son histoire, et puis de toute façon, encore une fois, il est dans le foot depuis longtemps. Heureusement que tu as une connaissance un peu de l'environnement, mais c'est sûr que sa com... Il n'en a pas trop fait, comme d'autres en ont trop fait, par exemple, à 60 bornes de chez nous, l'autre abruti quand il est arrivé. Il a promis tout de suite la rivalité avec le PSG, il a promis le fait d'être capable de gagner des titres et de concurrencer le PSG de ce point de vue. Et ben, Gazidis, ça a été largement meilleur en com', c'est vrai. Bon, ensuite, qui parle du centre de formation, c'est bien, mais c'est pas, je dirais, un exploit de sa part. Ce que ensuite qu'on recrute les meilleurs jeunes, j'ai envie de dire, quelque part, on est déjà capable de former certains des meilleurs jeunes, plutôt derrière que devant, des meilleurs jeunes de France. L'enjeu, et là où je l'attends, c'est dans la capacité du club à les faire jouer en pro un peu plus que 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et entre Nguessan ou Amougou, on a par exemple deux jeunes qui paraissent très prometteurs. Et ben voilà, le défi déjà, ce sera d'arriver à faire monter ces mecs-là en pro et vraiment de les lier au club pour une durée un peu plus longue que ce qu'on a pu avoir depuis et ce qui était la preuve de l'échec total et de la fin de cycle de Romelu Lekeidjo un peu plus longtemps que les Gournat, les Fofana et compagnie, quoi. Donc, bon, l'espoir, il est là. Et c'est un peu aussi ce qu'il a fait à Milan. Donc, je pense que c'est aussi dans ce qu'il aime faire et dans ce qu'il a voulu faire dans ses clubs précédents, dans ses aventures précédentes. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Noah Raver, notre gardien qui est parti à Milan, je pense que Gazidis était encore à Milan à cette époque-là, parce que si je ne dis pas de bêtises, fin 2022, il était encore à Milan. Je pense que c'est le départ de Raver à Milan se fait sous la direction encore à l'époque de Gazidis au Milan AC.
Noah Raver
Donc
qui a joué la finale de la Youth League
voilà.
avec le Milan AC. Très bien. On arrive au terme de l'émission. Dernière intervention de Verivel pour nous parler du chat, je suppose.
Exactement, je vais vous parler du chat. Alors, il y a beaucoup trop d'interventions pour que je dise tout. Je suis vraiment désolé. En tous les cas, pour ceux qui
Mais ceci
ont.
étant dit, on vous remercie énormément,
Allez.
les participants au chat. C'est un vrai plaisir pour nous, un vrai bonheur d'avoir vos réactions, de rebondir sur vos réactions. Et franchement, merci, merci beaucoup. C'est très, très agréable pour nous.
Ouais, puis il y a du monde là ce soir, c'est hyper intéressant. Notamment, on se pose les mêmes questions, notamment Eric là, qui se demande combien on a besoin de recrues par ligne. Stéphane qui nous dit que certains joueurs de notre effectif n'ont pas de niveau de la Ligue 1, donc il va falloir vraiment se renforcer.
Attends une seconde, Verivel. Au sujet des renforts, ce qui a été dit par Evan Gazidis, c'est qu'il y aurait des renforts dans toutes les lignes. Alors, il n'a pas dit combien, mais il y aura des renforts dans toutes les lignes, ce qui semble nécessaire, effectivement. Et puis, il y aura des départs dans toutes les lignes aussi. Ça, c'est Olivier Dalloglio qui l'a dit.
Ouais, Stéphane, il nous parle de deux joueurs par ligne, lui, qui lui semble nécessaire. Et puis il y a Philippe qui s'interroge un petit peu sur les relations qu'auront la nouvelle direction avec les supporters. Comment Titi Greenfan qui dit exactement, c'est peut-être un souci. Comment ça va se passer avec les Green et les MF, notamment avec les Fumi, par exemple. Quelle va être
Vraie question, ça. Vraie question. Comment les groupes vont
exactement.
réagir? Et moi, je pense que nous avons des groupes qui sont sensiblement plus intelligents que ce qui est dit parfois, et qui vont être capables de faciliter les choses à la direction, leur laisser du temps. Alors après, ils vont pas. On en a déjà parlé dans l'émission. Hein, ils vont pas baisser leur froc, ils vont pas tout arrêter. Mais je pense pas qu'ils vont avoir des actions qui sont franchement pénible pour la nouvelle direction. Je n'y crois pas.
Ouais, alors après, ben, il y a la gestion des fumis qui est toujours un petit peu difficile parce que ça fait des amendes, etc. Et du coup, comment vont réagir la nouvelle direction à ces événements? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et voilà, c'est ça la discussion en ce moment sur le chat. C'est très sympa et merci à tout le monde.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Un grand merci à tous les auditeurs, que ce soit ceux qui écoutent en direct et qui réagissent, sur YouTube, sur le forum, sur Twitter, enfin sur X, ex-Twitter, ou ceux qui nous écoutent en podcast. Merci beaucoup à toi, Verivel, à Pat, à Dissident, à Par Hasard. C'est un grand, grand plaisir de faire ces émissions avec vous. C'est toujours très instructif, très positif. Et surtout, c'est une réunion d'amoureux des Verts, de fous des Verts même. Nous sommes fous des Verts et ça ne risque pas de changer. Voilà, bonne fin de journée à tous. Bienvenue en Ligue 1 et allez les Verts.
Allez les Verts.
Allez les Verts. Allez, les Verts. Allez, les Verts.